Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant, la presse. Au programme, le superordinateur quantique d'IBM s'en vient. Cuba se dépeuple comme jamais et un accord historique après des années de pourparlers. Bonne écoute.
Le superordinateur quantique d'IBM s'en vient. Un texte de Jean-Philippe Descaries, paru le 27 janvier 2023 dans la presse. L'informatique quantique a longtemps été considérée comme un domaine générateur de scénarios futuristes improbables, mais elle est devenue aujourd'hui un terreau de développement bien réel qui pourra prochainement servir aux entreprises québécoises avec l'entrée en activité à Bromont du superordinateur quantique d'IBM, une machine qui n'existe que dans 5 pays dans le monde. L'informatique quantique, née du croisement de l'informatique et de la physique quantique, est un domaine de recherche qui progresse depuis plus de 70 ans et qui suscite la fascination tout autant qu'il ne se vulgarise pas facilement. Dans le roman « Prisonnier du temps » de l'écrivain à succès Michael Crichton, « Le parc jurassique », publié en 1999, l'informatique quantique permet à un chercheur mégalomane de construire un ordinateur assez puissant pour permettre la transmission des milliers de données qui caractérisent l'être humain. On assiste à la création d'une machine à voyager dans le temps qui transporte un spécialiste du Moyen Âge en pleine guerre de 100 ans et qui s'y perd évidemment. Dans le roman Origine, écrit à la même époque par Dan Brown, autre auteur à succès qui a notamment écrit Da Vinci Code, un jeune futurologue arrive avec l'aide d'un superordinateur et de l'intelligence artificielle quantique à répondre aux deux grandes questions existentielles d'entre toutes, d'où venons-nous et où allons-nous? Si l'informatique quantique a ouvert un monde de potentialités infinies dans le domaine de la science-fiction, ses capacités de calcul avancées, nettement supérieures à celles de l'informatique numérique classique, s'impose de plus en plus dans de multiples domaines de recherche et d'activités économiques. Dans sa volonté d'amener les entreprises québécoises à réaliser et accélérer leur transformation numérique, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, en collaboration avec l'Université de Sherbrooke, a mis sur pied la plateforme d'innovation numérique et quantique du Québec, PINQ, à Sherbrooke. Annoncée en grande pompe il y a 3 ans, PINQ est aujourd'hui en fonction et c'est cette plateforme qui exploitera à partir de septembre le superordinateur quantique d'IBM, le Quantum System One, dont le gouvernement a acquis les droits d'usage pour les 5 prochaines années au coût de 68 millions. Le superordinateur quantique sera installé dans les prochains mois à l'usine IBM de semi-conducteurs de Bromont, mais la gestion de la supermachine se fera par PINQ au moyen de l'infonuagique. La plateforme d'innovation travaille également en collaboration avec l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke ainsi que l'Université de Montréal et Concordia. Citation : On offre un environnement hybride avec de l'informatique classique et quantique. On a déjà commencé des projets à partir des ordinateurs quantiques d'IBM à New York. Mais à partir de septembre, on va le faire avec le superordinateur de Bromont qui assurera la souveraineté de nos données. » Fin de citation, m'a expliqué Éric Capel, directeur général de PINQ, cette semaine lors du lancement de cette prochaine étape. Non, le superordinateur quantique de Bromont ne permettra pas de résoudre l'énigme de l'origine du monde. Il va toutefois ouvrir des possibilités aux entreprises et aux chercheurs qui vont utiliser sa puissance de calcul inégalée pour développer des algorithmes que l'informatique classique est incapable de réaliser. Citation : Simuler les propriétés d'une molécule d'insuline avec un ordinateur classique nécessiterait une machine de la taille d'un pays ou même de la Terre. Un ordinateur quantique offre des possibilités de calcul immenses pour développer des algorithmes beaucoup plus complexes. On est passé de l'analogique au numérique et maintenant le quantique nous amène ailleurs. Fin de citation, explique Jean-François Barsoum, directeur exécutif innovation chez IBM. Le superordinateur quantique de Bromont va servir à optimiser la recherche opérationnelle et à développer notamment de nouveaux matériaux, de nouveaux médicaments, des solutions pour le secteur de l'énergie, de l'environnement et du manufacturier, tout comme des algorithmes de gestion de risque pour le monde financier. On prévoit qu'une vingtaine d'entreprises vont utiliser son potentiel dans la première année et qu'une centaine de projets pourraient s'y greffer annuellement par la suite. Citation : On veut être proche des universités et des grandes organisations comme le MILA ou IVADO, tout autant que des PME par l'entreprise des centres collégiaux de transfert des technologies. On a déjà des start-up comme LedarTech qui participent à des projets. Fin de citation, précise Éric Capel de Pink. IBM utilise une vingtaine de ses superordinateurs quantiques dans son centre de recherche à New York et 4 États seulement dans le monde disposent ou seront bientôt dotés d'un Quantum System One, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud et bientôt le Québec. Citation : Ce qui est bien, c'est que chaque nouvelle version du superordinateur quantique est plus performante que les précédentes. Celui de Bromont dispose de fonctionnalités additionnelles en intelligence artificielle, ce qui va profiter à nos chercheurs dans le domaine. Fin de citation, dit Jean-François Barsoum, directeur exécutif innovation chez IBM. Le gouvernement fédéral a annoncé cette semaine un investissement de 40 millions pour permettre à la société torontoise Xanadu Quantum Technologies de construire un ordinateur quantique basé sur la photonique, un projet de 180 millions. Selon le Conseil national de la recherche du Canada, l'industrie quantique canadienne devrait générer 140 milliards de dollars d'activités économiques annuelles d'ici 2045. Il faut donc s'attendre à ce que le premier nouvel ordinateur quantique de Bromont fasse des petits au cours des prochaines années. C'est vraiment là que le monde de l'infiniment petit et du démesurément grand se dirige. C'était « Le superordinateur quantique d'IBM s'en vient », un texte de Jean-Philippe Descaries, paru le 27 janvier 2023 dans La Presse.
Cuba se dépeuple comme jamais. Un texte d'Ed Augustine et Frances Robles du New York Times paru le 17 décembre 2022 dans La Presse. L'exode vers les États-Unis, le plus important à ce jour, menace l'avenir du pays. Baracoa, Cuba, Roger Garcia Ordaz ne cache pas ses nombreuses tentatives de fuite. Il a essayé de quitter Cuba 11 fois sur des bateaux faits de bois, de mousse, de polystyrène et de résine. Et il a un tatouage pour chaque tentative ratée, dont 3 accidents de bateau et 8 fois où il a été récupéré en mer par les gardes-côtes américains et renvoyé chez lui. Des centaines d'embarcations artisanales et bancales ont quitté cette année les rives de Baracoa, un village de pêcheurs situé à l'ouest de la Havane où vit Roger Garcia Ordaz, 34 ans. Bien sûr, je vais continuer à me lancer sur la mer jusqu'à ce que j'y arrive, a-t-il déclaré. Ou si la mer veut prendre ma vie, qu'il en soit ainsi. Conditions de vie précaires. Les conditions de vie à Cuba, sous le régime communiste, ont longtemps été précaires. Mais aujourd'hui, l'aggravation de la pauvreté et du désespoir a déclenché le plus grand exode de la nation insulaire des Caraïbes depuis l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro il y a plus d'un demi-siècle. Le pays a été frappé par un double coup de poing. Le durcissement des sanctions américaines et la pandémie de COVID-19 qui a éviscéré l'un des piliers de Cuba, l'industrie du tourisme. Les denrées alimentaires sont devenues encore plus rares et plus chères. Les files d'attente dans les pharmacies au stock limité commencent avant l'aube et des millions de personnes subissent quotidiennement des coupures de courant pendant des heures. Au cours de l'année écoulée, près de 250 000 Cubains, soit plus de 2 % des 11 millions d'habitants de l'île, ont migré vers les États-Unis, la plupart d'entre eux arrivant à la frontière sud par voie terrestre, selon les données du gouvernement américain. Même pour une nation connue pour ses exodes massifs, la vague actuelle est remarquable, plus importante que l'exode de Mariel en 1980 et la crise des radeaux cubains en 1994 réunis, jusqu'à récemment les deux plus grands événements migratoires de l'île. Mais alors que ces mouvements ont culminé en l'espace d'un an, les experts estiment que cette migration, qu'ils comparent à un exode en temps de guerre, n'a pas de fin en vue et menace la stabilité d'un pays dont la population est déjà l'une des plus âgées de l'hémisphère. Un défi pour Washington. L'avalanche de départ de Cubains est également devenue un défi pour les États-Unis. Désormais l'une des plus importantes sources de migrants après le Mexique, Cuba est devenu l'un des principaux responsables de l'afflux de migrants à la frontière américano-mexicaine, ce qui a constitué un handicap politique majeur pour le président Joe Biden et que l'administration considère comme un grave problème de sécurité nationale. Les chiffres pour Cuba sont historiques et tout le monde le reconnaît, a déclaré un haut fonctionnaire du Département d'État américain qui n'était pas autorisé à parler publiquement de cette question. Cela dit, il n'y a jamais eu autant de personnes qui migrent dans le monde et cette tendance se vérifie certainement dans notre hémisphère aussi. De nombreux experts affirment que la politique américaine envers l'île contribue à alimenter la crise migratoire même que l'administration s'efforce aujourd'hui de résoudre. Pour séduire les électeurs cubano-américains du sud de la Floride, l'administration Trump a écarté la politique d'engagement du président Barack Obama, qui comprenait le rétablissement des relations diplomatiques et l'augmentation des voyages vers l'île. Le président Donald Trump l'a remplacé par une campagne de pression maximale qui a renforcé les sanctions et limité sévèrement les sommes d'argent liquide que les Cubains pouvaient recevoir de leur famille aux États-Unis, une source clé de revenus. Si vous dévastez un pays à 145 km de votre frontière avec des sanctions, les gens viendront à votre frontière à la recherche de débouchés économiques, a déclaré Ben Rhodes, qui a servi de conseiller adjoint à la sécurité nationale sous Obama et a été la personne de référence pour les discussions avec Cuba. Quelques assouplissements. Bien qu'une levée significative des sanctions ne soit toujours pas envisagée, les deux gouvernements s'efforcent de faire face à l'extraordinaire vague de migration. Washington a récemment annoncé qu'elle allait rétablir les services consulaires à La Havane en janvier 2022 et délivrer au moins 20 000 visas à des Cubains en 2023, conformément aux accords de longue date entre les deux nations, ce qui, espèrent les responsables, dissuadera certaines personnes d'essayer d'effectuer des voyages dangereux vers les États-Unis. La Havane a accepté de recommencer à recevoir des vols en provenance des États-Unis pour les Cubains expulsés, une autre mesure visant à décourager la migration. Le gouvernement Biden a également supprimé le plafond des sommes que les Cubano-Américains sont autorisés à envoyer à leurs proches et a autorisé une société américaine à traiter les virements électroniques vers Cuba. La chute libre de Cuba a été accélérée par la pandémie. Au cours des trois dernières années, les réserves financières de Cuba se sont amenuisées et le pays a eu du mal à remplir les rayons de ses magasins. Les importations, principalement de nourriture et de carburant, ont diminué de moitié. La situation est si grave que la compagnie d'électricité du gouvernement s'est vantée récemment que le service électrique avait fonctionné sans interruption ce jour-là, pendant 13 heures et 13 minutes. Nous poursuivons la lecture de « Cuba se dépeuple comme jamais », un texte d'Ed Augustine et Frances Robles du New York Times paru le 17 décembre 2022 dans la presse. Manifestation monstre. En 2021, lassé par le déclin économique et le manque de liberté aggravé par le confinement de la COVID-19, des dizaines de milliers de Cubains sont descendus dans la rue lors des plus grandes manifestations anti-gouvernementales depuis des décennies. Une répression a suivi et près de 700 personnes étaient toujours emprisonnées à la fin de 2022, selon un groupe cubain de défense des droits de l'homme. Les Cubains les moins fortunés tentent de partir en construisant des bateaux de fortune et au moins 100 sont morts en mer depuis 2020, selon les gardes-côtes américains. Ces derniers ont intercepté près de 3000 Cubains en mer rien qu'au cours des deux derniers mois. Mais de nos jours, la plupart des migrants cubains quittent l'île par avion, les parents à l'étranger payant souvent leur billet, un trajet suivi d'un difficile voyage terrestre. Il y a 10 ans, Cuba a supprimé l'obligation d'obtenir un visa de sortie pour quitter l'île par voie aérienne, mais il est toujours illégal de partir par voie maritime. Les vannes se sont ouvertes en 2021, lorsque le Nicaragua a cessé d'exiger un visa d'entrée pour les Cubains. Des dizaines de milliers de personnes ont vendu leurs maisons et leurs biens et se sont envolées pour Managua, la capitale du Nicaragua, payant des passeurs pour les aider à parcourir les plus de 2700 kilomètres par voie terrestre jusqu'à la frontière américaine. Avenir démographique sombre. Catherine Hansing, anthropologue à la City University de New York, qui est en congé sabbatique sur l'île, a fait remarquer que les chiffres de la migration en hausse ne tiennent pas compte des milliers de personnes qui sont parties vers d'autres pays, notamment la Serbie et la Russie. C'est la plus grande fuite quantitative et qualitative de cerveaux que ce pays ait jamais connue depuis la Révolution. Ellipse, ce sont les meilleurs, les plus brillants et ceux qui ont le plus d'énergie, dit Catherine Hansing. Le départ de nombreux Cubains plus jeunes et en âge de travailler augure d'un avenir démographique sombre pour un pays où l'espérance de vie moyenne de 78 ans est plus élevée que dans le reste de la région, selon les experts. Le gouvernement peut déjà à peine se permettre de verser les maigres pensions dont dépend la population âgée du pays. L'hémorragie de Cubains hors de leur patrie est tout simplement dévastatrice, a déclaré Hélène Acosta-González, associée de recherche à la Florida International University. Cuba se dépeuple. Il y a quelques années à peine, l'avenir du pays semblait bien différent. L'administration Obama ayant assoupli les restrictions sur les voyages à Cuba, les touristes américains ont injecté des dollars dans le secteur privé naissant de l'île. Aujourd'hui, les voyages sont à nouveau sévèrement limités et des années de récession économique ont éteint les dernières lueurs d'optimisme de nombreux Cubains. De l'espoir? Johan Cruz Mendes, un chauffeur de taxi qui a essayé de partir 3 fois, regarde la mer à Baracoa et explique pourquoi tant de bateaux qui bordaient autrefois les rives de la ville ont disparu, ainsi que leurs propriétaires. La dernière chose que l'on peut perdre, c'est l'espoir, et je pense qu'une grande partie de la population a perdu l'espoir, a déclaré Johan Cruz Mendes, racontant qu'il avait une fois réussi à parcourir 48 kilomètres en mer pour être contraint de faire demi-tour car trop de personnes à bord avaient le mal de mer et vomissaient. En mars 2022, l'homme de 41 ans a acheté un billet d'avion pour sa femme afin qu'elle se rende au Panama et a puisé dans ses économies pour payer 6 000 $ à un passeur afin qu'il la fasse passer aux États-Unis, où elle a demandé l'asile politique. Elle travaille dans un magasin de pièces automobiles à Houston. Dans les bois situés juste au-delà de la ville, les gens sont occupés à construire d'autres bateaux, à démonter les moteurs des voitures, des générateurs électriques et des tondeuses à gazon. Lorsque la mer est calme, ils attendent que le contingent local des gardes-côtes cubains termine son service, avant de transporter les embarcations de fortune sur leurs épaules à travers la ville et sur des rochers escarpés, avant de les descendre doucement dans l'eau. En mai, Yoel Toro du Vergel, 32 ans, et sa femme Yanari, enceinte de 5 mois de leur unique enfant, et 4 autres personnes sont parties au petit matin. Mais leur moteur est tombé en panne. Ils ont commencé à ramer, mais ont été interceptés par les gardes-côtes américains à quelques kilomètres des États-Unis et ramenés à Cuba, où Yoel Toro du Vergel essaie de s'en sortir en faisant des petits boulots. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait essayé de partir, il a ri. « Comment ça, pourquoi j'ai voulu partir ?» a-t-il dit. « Vous ne vivez pas dans la réalité cubaine ?» C'était « Cuba se dépeuple comme jamais », un texte d'Ed Augustine et Frances Robles, paru le 17 décembre 2022 dans la presse et initialement publié dans le New York Times.
Un accord historique après des années de pourparlers. Un texte de Éric-Pierre Champagne, paru le 11 mars 2023 dans La Presse. Un premier traité international de protection de la haute mer a été adopté le 4 mars 2023 par les pays membres des Nations Unies. Une entente qualifiée d'historique au moment où la santé des océans est menacée par le réchauffement planétaire, la pollution plastique, la surpêche et l'exploration minière des fonds marins. Le nouvel accord est intervenu après plus de 15 ans de discussions, dont 4 années de négociations formelles entre les États membres de l'ONU. Il doit cependant être entériné par les quelques 190 pays membres avant d'entrer en vigueur. Qu'est-ce que la haute mer? Ce sont les eaux internationales qui commencent à la limite des zones économiques exclusives des États, soit à 370 km des côtes. La haute mer représente plus de 60% des océans. Surtout, elle constitue près de la moitié, 45%, de la surface de la Terre. Environ 1% des eaux internationales sont actuellement l'objet de mesures de protection. Avec cette nouvelle entente, des aires marines protégées pourraient être créées en haute mer. Rappelons que le nouveau cadre mondial pour la biodiversité, adopté à Montréal en décembre dernier, prévoit de protéger 30% des océans. Depuis le début de la révolution industrielle vers 1750, les océans ont absorbé environ le quart des émissions de CO2 relâchées dans l'atmosphère. Ils ont aussi absorbé presque tout l'excès de chaleur occasionné par la hausse des gaz à effet de serre, soit 93% au cours des 40 dernières années. Bref, sans les océans, les effets du réchauffement planétaire seraient encore plus importants. Le hic, en jouant ainsi le rôle d'éponge climatique, les océans s'acidifie et se réchauffe, ce qui modifie profondément certains écosystèmes marins. Si les banquises en Arctique et en Antarctique reflètent jusqu'à 90% des rayons du soleil, l'océan, lui, les absorbe jusqu'à 90%. Les changements climatiques se traduisent ainsi par un cercle vicieux à teneur exponentielle. Le réchauffement des océans fait fondre la banquise. La fonte de celle-ci diminue la superficie des surfaces blanches capables de refléter les rayons du soleil. Les océans absorbent alors encore plus de chaleur, ce qui accélère la fonte des glaces. Vous suivez toujours? Selon l'ONU, environ 90% des populations d'espèces de poissons exploitées commercialement sont épuisées ou en voie d'épuisement. Si les réserves terrestres de nickel sont estimées à 230 millions de tonnes métriques, Celles situées au fond des océans sont évaluées à 306 millions de tonnes métriques. Or, la demande pour ce minerai est à la hausse, notamment pour assurer la production de voitures électriques. C'est le cas aussi pour le cobalt et les terres rares, dont les réserves sous-marines sont très largement supérieures à celles qu'on retrouve sur Terre. Appelée la zone de Clarion-Clipperton, cette fracture géologique, longue d'environ 7200 km, possède une superficie de 4,5 millions de mètres carrés, soit presque trois fois la superficie du Québec. À une profondeur de 4000 à 5000 mètres, on y retrouve des quantités importantes de cobalt, de terres rares, de nickel et de manganèse. Plusieurs permis d'exploitation minière ont été délivrés par l'Autorité internationale des fonds marins ces dernières années. Plusieurs scientifiques et groupes environnementaux appellent à la prudence quant à l'exploration minière des fonds marins. Ils invoquent notamment le peu de connaissances de ces zones, plus difficiles à explorer que les milieux terrestres. Dans ces circonstances, les impacts des activités minières, par exemple, pourraient être sous-estimés faute d'informations. L'un des éléments les plus importants du nouvel accord, c'est qu'il prévoit l'obligation de réaliser des études d'impact sur l'environnement pour des activités envisagées en haute mer, dans des zones qui échappent aux juridictions nationales. C'était un accord historique après des années de pourparlers, un texte de Éric-Pierre Champagne, paru le 11 mars 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Jocelyne Langevin, André Lebeau et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.